Modélisa, alias le Prince Mio, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es présente aujourd'hui à la fête du Cognac pour la deuxième année consécutive, mais cette fois-ci de manière organisée, pas comme l'année dernière où tu avais dû remplacer au pied levé le groupe Morcheba. Alors, est-ce que tu es prête, ça y est, pour ce soir?
Oui, alors finalement, on n'a quand même pas joué depuis un mois comme l'an dernier, mais en vrai, oui, on est plus prêt que l'an dernier. Mais bon, ça met plus la pression du coup, parce que comme on est préparé, on n'a pas d'excuses. Voilà.
Alors, comme beaucoup de vrais passionnés de la musique, tu as commencé à jouer de manière amateur dans un groupe familial avec ton frère. Et aujourd'hui, tu as pu acquérir avec le temps une notoriété nationale au point d'avoir fait un passage au Franco de La Rochelle et après avoir fait aussi quelques pages de grands quotidiens nationaux comme Libé ou L'Obs. Et finalement, eh bien, tu n'es parti de rien pour arriver à quelque chose quand même d'extraordinaire. Comment as-tu vécu cette croissance artistique depuis quelques années ?
Alors, c'est un peu particulier parce que, à la fois, je trouve que j'ai énormément de chance. Donc, j'ai fait 5 disques, ça fait 12 ans que ça existe. Donc, si on m'avait dit il y a 12 ans, bah, tu seras dans Le Monde ou Libération, les Inrock, tu feras les Eurocaines de Belfort, tout ça, je me serais dit waouh, génial. Mmh. Et en fait, quand j'ai eu le sommet de mon buzz, comme on dit, je le vivais pas très bien parce qu'en fait, j'avais très peur d'affronter toutes ces grosses scènes sans énormément d'expérience. Les télés en direct, les radios, ces choses-là, c'était très effrayant pour moi. Donc, j'en ai pas trop profité quand ça marchait vraiment bien. Et maintenant, ça marche un peu moins bien parce que c'est moins nouveau. Donc, les médias, ils aiment bien remplacer tout le temps un peu par des nouveautés, en fait. Donc, c'est plus difficile pour moi d'atteindre ces gros médias, surtout que je suis partie de Paris, tout ça. Avec le recul, je me dis, bah ouais, j'ai eu vachement de chance d'arriver à ce point-là en partant de pas grand-chose, effectivement.
Aujourd'hui, pour survivre, en fait, dans la masse de musique qui sort chaque mois, il faudrait sortir des tubes à ne plus en voir le bout, c'est ça ?
Bah déjà, juste au moins un tube. Alors déjà, peut-être que j'en suis pas capable. Hein. C'est pas évident d'écrire un tube qui va plaire à plein de gens. Et c'est pas ce que je recherche non plus. C'est pas trop la musique que j'ai envie de faire. Ouais. Moi, je cherche pas le succès à tout prix. J'aimerais bien que ma musique soit écoutée le plus possible, bien sûr, mais dans le format que j'aime. Quoi.
En 2007, tu sors ton premier album, Nécessité microscopique. Ce nom résonne particulièrement bien avec ta carrière, puisqu'au début, à l'époque, tu débutais juste Le Prince Miaou. Est-ce qu'il y avait un rapport entre ce nom de l'album et le début de ta carrière?
Oui, complètement. C'est-à-dire que c'était une nécessité et tout ça, c'était microscopique. Et je voulais appeler le deuxième, je ne sais plus quoi, télescopique. Bon, voilà. Mais en tout cas, effectivement, c'était une phrase qu'avait dit un copain comme ça que je trouvais vraiment appropriée au fait que la musique à l'époque, c'était vraiment un besoin, une nécessité et que ça restait microscopique.
Alors, hasard ou non, en faisant des recherches sur tes différents albums, je me suis aperçu que tu as enregistré ton deuxième album, Safety First, en 2009 à Pont. C'était dans ton appartement ou en studio?
Alors, c'était dans le studio de mon grand frère, Benjamin Mando, qui donc a travaillé à Radio Pont, qui a remonté la radio, qui à l'époque était un petit peu laissée de côté, je crois, au centre social. Et donc effectivement, lui, il animait une émission musicale et il avait son studio à Pont, dans une maison qu'il avait achetée, dans laquelle il avait fait un studio. Et donc j'ai fait mon deuxième album chez lui, à Pont.
Alors il y a quelques jours, en préambule de ta venue à la fête du Cognac, tu as accordé une interview au journal Sud-Ouest et tu évoquais une fin possible de la musique. Comment est-ce que tu pourrais expliquer ce choix un peu brutal quand même ?
Alors non, c'est ce que je dis à la fin de l'interview avec Philippe Ménard. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai fini un disque, j'ai dit j'arrête. Parce que finalement, c'est presque plus douloureux que joyeux, cette aventure pour moi. Parce que soit ça marche trop et je le vis pas bien, soit ça marche pas assez et c'est difficile. C'est très lourd à porter. Enfin, c'est comme une entreprise, je suis un peu toute seule aux commandes de tout ça. Et puis à force de voir que c'est si compliqué de faire son trou, de subsister, de continuer de se faire entendre, j'en ai un petit peu marre d'essayer. Donc je dis pas que je referai jamais un disque, en tout cas là j'ai plus envie du tout de me relancer dans cette aventure. C'est hyper long de faire un disque, surtout toute seule, parce que ça me prend 1 à 2 ans pour le composer et après une bonne année pour préparer la sortie. Donc quand ça après une très longue vie, c'est un peu décevant d'avoir fait... Enfin, après le travail est hyper agréable donc c'est pas grave, mais il faut rentrer de l'argent quand même. Donc il y a toute cette pression d'en faire son métier qui est trop lourde maintenant pour moi. Donc comme je disais dans Sud-Ouest, là j'ai un projet de musique de cirque contemporain, de spectacle de cirque, et du coup ça me va bien parce que c'est pas mon projet, je serais juste compositrice, c'est très différent en fait.
Je comprends à travers ce que tu dis que la notoriété c'est quelque chose de difficile à gérer quand on est au sommet, comme tu l'as dit juste avant.
Moi j'ai jamais heureusement été au méga sommet, moi j'étais au sommet d'une petite colline, donc c'est bien parce que la chute est moins forte, plus on monte, plus on tombe de haut on va dire. Donc, mais oui, la notoriété, mais ça on le voit, sans me comparer aux artistes vraiment très connus, tous, ça leur fait péter un plomb à un moment, que ce soit là, j'ai vu il n'y a pas longtemps le film sur Elton John, et c'est vrai que Il y a les fantômes qui ressortent parce qu'on a accès à plein de drogues, parce que c'est compliqué de faire face à des foules de gens, c'est pas quelque chose de naturel. J'ai écouté encore une interview de Bachung l'autre jour, quand il sort du métro et que les gens se ruent sur lui, bon bah c'est très bizarre. Alors moi ça m'est pas arrivé à ce niveau-là, et tant mieux. Mais déjà à mon échelle, c'était compliqué de faire face à tout ce stress que ça génère, d'être sur scène, de se montrer devant des gens. C'est assez paradoxal parce qu'on en a envie, et à la fois après on se rend compte que c'est pas si évident que ça en fait de... Et puis les gens très connus, ils sont critiqués, tout ça, faut savoir le gérer en fait. Hein. C'est un personnage public, tout d'un coup, c'est différent que de juste faire de la musique en fait.
Voilà. Et alors justement, est-ce que tu as été entouré par tes proches pour justement gérer à ce moment-là, quand tu étais un peu invité dans tous les médias ou dans des journaux, pour gérer un peu ce stress et t'aider un peu à avancer aussi, parce qu'il y a toute une organisation.
Oui, alors ouais, j'ai une attachée de presse, j'avais un manager que j'ai plus là aujourd'hui, parce que j'avais besoin de me retrouver un peu toute seule avec ce que moi j'avais envie de faire. Mais oui, à une époque, j'avais une maison de disques, un manager, une attachée de presse qui m'accompagnait aux promos. Alors après, tu es quand même seule au moment où tu dois jouer ta chanson en direct sur France Inter, ou si tu dois faire une interview en direct, le manager, il ne peut pas t'aider à affronter ce stress et tout ça, quoi. Mais oui, j'ai eu des gens qui m'ont aidé à développer ma carrière, à me soutenir, à trouver des financements, à trouver des idées, à les mettre en œuvre, tout ça. Sauf sur le dernier, où j'étais très très seule, mais j'avais quand même des attachés.
Alors justement, je rebondis sur ce que tu dis. Il y a un mois, à l'occasion du festival Free Music de Montendre, j'ai eu la chance de pouvoir interroger Vanu Pied, un artiste qui, comme toi, aime le fait maison musical. Et à la question, est-ce que l'absence quasi totale de manager ou de producteur constamment présent auprès d'un artiste était une forme de liberté?
Moi, je trouve, parce que mon manager, et c'était son métier, c'était bien, voulait que ça marche pour moi. Et quitte à parfois dénaturer peut-être un peu mes propos en interview pour être plus positive, il m'encourageait vachement à être plus positive parce que je disais tout ce que je pensais, et donc je pouvais dire, ah, j'ai pas envie de jouer ce soir, j'aime pas ce métier, et donc, ou alors à changer mes pochettes, à vouloir changer mes pochettes pour qu'elles soient plus attractives. Ou à me dire ton introduction elle est trop longue de morceaux et du coup ça rentrera pas sur France Inter, et tout ça ça formate en fait le projet, et y a rien de pire qu'un projet tiède. Vaut mieux être très indé ou très populaire, mais entre les deux, pour essayer de ménager la chèvre et le chou, c'est pas bien en fait. Donc dans ce sens là c'est pour ça que je me suis séparée de mon manager, c'est parce que toute cette voix là qui me disait quoi faire pour que ça marche, bah ça me convenait plus, hein. Mais quand il était encore là, j'avais envie de faire ce qu'il me disait, donc fallait que je m'en sépare pour vraiment retrouver ce que moi j'avais envie de faire artistiquement, quitte à ce que ça passe pas à la radio, quoi.
Donc aujourd'hui, par exemple, des célébrités francophones ou internationales sont obligées de se plier à certaines règles dont ils auraient aimé se passer, en fait, pour pouvoir réussir?
Oui, bien sûr. Il y a quelques groupes qui n'en passent pas par là, je pense. Et encore que... Enfin, je suis sûre qu'il y a des groupes qui sont obligés de faire plus de photos qu'ils le voudraient, ou plus d'interviews qu'ils le voudraient. Mais aujourd'hui, surtout en France, il faut quand même correspondre à un moule musical pas très large en fait. Il n'y a pas beaucoup de place pour plein de styles différents. Donc, par exemple, il faut chanter en français, c'est compliqué. Il n'y a que Jeanne Haddad, bon, iPhone aussi, en ce moment, qui arrive à chanter en anglais. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ça fait partie des choses. Bah, si tu veux que ça marche, il faut que ça chante en français, parce qu'on est en France. Des critères comme ça, il faut que ce soit plutôt joyeux. Il y a une injonction à la joie, il y a plein de choses comme ça où il n'y a pas de place pour la musique trop mélancolique. Bon, bah, je comprends en même temps. Il y a toujours eu un réseau indé de musique. Je crois que maintenant, je suis plutôt là-dedans, et bon, ça existe quand même.
Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus que deux à jouer sur scène. Où sont passés tous les autres musiciens qui t'accompagnaient?
Alors, le Prince Mahmoud, c'est pas un groupe. Ouais. Voilà, je compose toute seule. Je fabrique la musique toute seule. Du coup, selon ce que je mets dans le disque, j'ai besoin ou non de musiciens pour le jouer. Et avant, je mettais beaucoup de violoncelle. Donc, j'avais un violoncelliste, François-Pierre Foll. Et là, sur ce nouveau disque, il n'y avait plus de violoncelle. Il y avait très peu de guitare. Avant, il y avait beaucoup de guitare. Donc, j'avais pris un autre guitariste. Mais ça changeait d'ailleurs de tournée en tournée, les guitaristes. Et puis là, bah, il n'y avait pas assez de travail presque pour 4 personnes.
D'accord.
Et aujourd'hui, la conjoncture fait que moins on est nombreux, moins ça coûte cher, plus on peut jouer. Et malheureusement, il y a beaucoup de groupes, on voit qui sont plus que deux, parce que ben, aujourd'hui, les programmateurs veulent pas payer en fait trop cher, parce que les gens se déplacent pas assez. Donc, sauf sur les têtes d'affiche où là, ils peuvent être 5 ou 6, parce que ça fait venir beaucoup de monde. Sur des groupes plus découvertes, ben, c'est délicat de dépenser trop d'argent. Et donc, on en vient un peu à avoir des formules réduites qui sont beaucoup plus souples pour jouer un peu n'importe quoi.
Alors maintenant, je vais vous proposer d'écouter un extrait de ta dernière musique, Victoire, qui m'a paru se différencier de toutes tes autres productions. Écoutez-la et on en reparle juste après.
Did you do it on purpose?
Alors comme je disais, cette musique interpelle l'oreille, les sonorités électro-centre-choc, le clip est au ralenti, tout comme la musique. Bref, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté et les paroles font paraître un certain regret. Quel a été le processus de création de Victoire ?
Alors déjà, c'est le morceau que j'ai préféré faire. C'est de l'orfèvrerie pour moi. J'adore Jérôme Bosch, le peintre, qui met des milliers de détails dans une même toile. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est bourré de petits détails. C'est très long. Le morceau donc fait 8 minutes 23, en vrai. En fait, je m'étais un peu inspirée du Boléro de Ravel, où c'est un thème qui est décliné sur plein d'instruments, en fait. Alors, sans avoir la prétention de faire du Ravel. Mais en tout cas, c'était un peu l'idée de départ. Garder le même thème et le décliner. Et là, typiquement, on est dans une liberté totale artistique où il n'y a pas de format, il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de couplet. C'est un peu une épopée, ce morceau, où on passe par des moments de tempête, des moments de calme, voilà. Et donc, ça m'a pris pas mal de temps, mais c'était très agréable, c'était très minutieux comme travail.
Alors, on parle peu de ton site web, mais en réalité, c'est un véritable chef-d'œuvre qui mériterait qu'on parle de lui pendant des heures. Il ne possède qu'une seule et unique page, mais sur celle-ci, tu parles de toi, de tes tournages, des montages, de manière ironique. Et on sent en toi une certaine poète, ou une écrivaine même. Est-ce que ça ne serait pas le cas par hasard ?
Alors on me dit souvent ça, donc ce site c'était pour le clip de Closure. Comme je ne sais pas administrer mon site, il n'y a que ça dessus, parce que je ne peux pas après re-rentrer dedans pour écrire d'autres choses. Et donc où je raconte effectivement le tournage épique de ce clip fait avec des bouts de ficelle comme d'habitude. Donc ce qui est parfois compliqué. Et du coup on me dit qu'effectivement j'ai un certain ton à l'écrit et que c'est assez agréable à lire. Ouais. Mais bon, bah après, c'est pour l'instant pas le support que j'ai choisi.
Peut-être une reconversion plus
tard. Peut-être, j'aimerais bien, en tout cas, ça fait longtemps que j'aimerais bien. Mais j'aurais dû écrire l'histoire du disque, par exemple. Ça aurait pu être ou l'histoire de ma carrière, mais sur un mode drôle, quoi. Enfin, je veux dire, voilà.
Alors, c'est aussi une spécificité chez toi, tu portes une sorte de bouclier. Alors, je sais pas comment le qualifier. Qu'est-ce que c'est ?
Une armure, un peu. C'est une armure ? C'est un chest protector de BMX pour faire du vélo. Un pare-pierre, en fait. En français, on dit un pare-pierre de motocross que j'ai trouvé dans une brocante. Ça faisait longtemps que je voulais une carrure un peu de footballeur américain. Je sais pas, sûrement que j'avais besoin de m'élargir les épaules pour porter tout ça. J'aime bien cette silhouette, voilà, un petit peu en triangle. Et j'ai trouvé ce truc à une brocante et je me suis dit, oh, mais c'est génial, c'est un truc qui date des années 80. Et que j'ai toujours aimé avoir des costumes sur scène.
Pas rester neutre.
Ça, et puis au-delà de ça, je trouve que c'est un endroit où il faut pas trop se prendre au sérieux. Alors je suis très sérieuse dans ma musique et tout, mais voilà, sur le décorum, tout ça, je trouve ça assez cool de pas être habillée comme tous les jours.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci de m'avoir interviewée. C'est cool.